VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition de 18h30 temps universel du mardi 29 mai 2018. Abdourahmane Dia, en direct de Washington, voici les titres. L'OMS veut introduire 5 nouveaux traitements contre le virus Ebola en RDC le plus tôt possible. Une attaque au Mozambique fait au moins 10 morts, des islamistes sont pointés du doigt. Pour parler interlibyen à Paris, les élections fixées au 10 décembre. Les démarches s'intensifient entre Washington et Pyongyang pour la tenue du sommet le 12 juin. Et en partie magazine, le gouvernement sénégalais tente de désamorcer la crise universitaire en augmentant le montant des bourses.
La crise de l'université n'est pas simplement une crise de bourse ou bien une crise alimentaire. C'est la place de l'université dans la société sénégalaise.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bienvenue à tous. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé travailler avec les autorités de la République démocratique du Congo afin d'introduire rapidement 5 premiers traitements contre Ebola. 2 d'entre eux ont déjà été testés sur des êtres humains, selon le porte-parole de l'OMS. Cette annonce intervient alors que des responsables de la santé en RDC ont lancé la semaine dernière une campagne ciblée de vaccination avec un vaccin expérimental jugé très efficace par l'OMS. Au Cameroun, le gouvernement annonce la mort de 32 personnes, dont 5 otages, la semaine dernière à Menka. C'est dans la région anglophone du Nord-Ouest. C'était lors d'affrontements entre forces de sécurité et un groupe armé retranché dans un hôtel. Selon Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication, l'opération spéciale a été menée par 30 militaires et policiers pour déloger des assaillants qui avaient pris possession d'un motel à Menka. Il a affirmé que 15 otages se trouvaient dans l'établissement et que 5 d'entre eux avaient été tués par le groupe armé. Un membre de la garde républicaine du Gabon a été blessé par balle dans le centre de Libreville alors qu'il était en mission. Ce militaire était positionné avec d'autres membres de la garde républicaine à proximité du grand lycée public Léomba où devait passer le convoi du président Ali Bongo. Lorsqu'une voiture s'est arrêtée à sa hauteur, un des occupants a baissé la vitre et donc a tiré sur lui au moins une fois. Le véhicule des tireurs a réussi à prendre la fuite et était activement recherché depuis. Au moins 10 personnes ont été décapitées au cours du week-end dans le nord-est du Mozambique, une zone où des militants islamistes avaient été précédemment signalés. Les précisions de Félix Yepasizembrou.
Plusieurs sources locales s'exprimant sous anonymat ont confié à l'AFP que l'attaque a eu lieu à Lobe, dans un village de la province de Cabo Delgado, non loin de la frontière tanzanienne. Des enfants et le chef du village figurent parmi les victimes. Les assaillants seraient des militants islamistes et auraient visé le chef du village pour avoir fourni à la police des informations sur leur cachette. Un groupe islamiste radical dénommé Al-Shabaab avait investi en octobre dernier la ville de Mossimboa de Praia dans la même province. Il avait pris pour cible le commissariat de police et une caserne militaire. Il avait fallu 2 jours de combat avant que la police ne puisse reprendre contrôle de la situation. D'après le bilan officiel, 2 policiers, 1 chef local et 14 assaillants ont péri dans ces affrontements. Les autorités mozambicaines ont arrêté depuis le mois dernier plus de 300 personnes soupçonnées d'être liées aux islamistes.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a promis d'approuver une loi abaissant l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique. Dans les jours à venir, de nombreux jeunes nigérians se joindront à moi pour la signature de la loi intitulée « Pas trop jeune pour être candidat », a déclaré le chef de l'État nigérian. Le texte prévoit l'abaissement de 40 à 35 ans de l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle et de 35 à 30 ans pour briguer un mandat sénatorial ou de gouverneur. Des élections législatives et présidentielles se tiendront en Libye le 10 décembre de cette année. C'est du moins ce qui ressort d'une déclaration faite ce lundi à Paris à l'issue d'une rencontre organisée par le président Emmanuel Macron avec les 4 responsables libyens. Les précisions de John Lindon.
Nous nous sommes engagés à œuvrer de manière constructive avec les Nations Unies pour l'organisation des élections dignes de foi et pacifiques et à respecter les résultats des élections lorsqu'elles auront lieu, indique la déclaration politique endossée par le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, et celui du Conseil d'État, Khaled al-Meshri. Cette déclaration a été lu en arabe par l'envoyé spécial de l'ONU, Kassam Salamé. Emmanuel Macron a évoqué une rencontre historique, une étape importante pour la réconciliation en Libye, un pays plongé dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi. Pour sa part, le Premier ministre Fayez al-Sarraj a lancé un appel au dialogue, appelant à arrêter les combats. Les présidents tchadiens Idriss Déby, nigérien Mahamadou Issoufou, tunisien Beji Caïd Essebsi et congolais Denis Sassou Nguesso, représentant de l'Union africaine sur la Libye, ainsi que le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia, ont pris part à cette rencontre de Paris.
L'opposition malgache a déposé devant la Haute Cour constitutionnelle une requête en déchéance visant 18 députés à qui elle reproche d'avoir rejoint les rangs du parti du président Hery Rajaonarimampianina. Cette initiative intervient après un arrêt rendu vendredi par la même Cour qui a ordonné la constitution rapide d'un gouvernement d'union nationale composé sur la base des résultats des élections législatives de 2013.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est toujours le suspense concernant le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. À deux semaines de cette rencontre très attendue, les échanges diplomatiques s'intensifient entre Washington et Pyongyang. Dans une très rare visite, un haut responsable nord-coréen est attendu aux États-Unis. Des précisions de Raissa Gironda.
Nous avons constitué une excellente équipe pour nos discussions avec la Corée du Nord. Des rencontres se déroulent actuellement concernant le sommet, a tweeté le président américain. Donald Trump a confirmé que le général nord-coréen Kim Jong-chol est en route vers New York, deux jours après qu'une délégation américaine a rencontré des responsables nord-coréens à Panmunjom, dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Kim Jong-chol a fait escale à l'aéroport de Pékin où il devait s'entretenir avec des responsables chinois avant de venir aux États-Unis. Dans le même temps, une délégation américaine est en route pour Singapour pour les préparatifs logistiques mais aussi fixer l'agenda de la réunion prévue le 12 juin. Les deux Corées se sont rencontrées samedi dernier. Maintenant, Washington et Pyongyang doivent se retrouver pour définir la dénucléarisation.
L'ouragan Maria a tué plus de 4600 personnes sur l'île américaine de Porto Rico l'an dernier, selon une étude publiée ce mardi, un chiffre qui est très loin du bilan officiel de 64 morts. C'est une étude réalisée par l'université Harvard. Deux agents de police et un conducteur de voiture ont été assassinés à Liège, en Belgique. L'assaillant, qui était détenu dans une prison de la ville, était en permission. Il a aussi blessé plusieurs policiers avant d'être abattu. Le point avec Marie Benson.
Deux policières et un homme âgé de 22 ans ont été tués par un individu âgé de 36 ans qui était détenu dans la prison de Liège, mais jouissait d'une permission pour préparer sa réinsertion. L'homme, appelé Benjamin, a attaqué au couteau deux policières avant de les tuer avec leur arme de service. Il a ensuite tué le passager d'un véhicule qui était garé non loin de là. L'homme prend alors la direction d'un complexe scolaire et prend en otage une employée. Les policiers sont intervenus rapidement. L'assaillant a fait feu sur eux, mais a finalement été abattu, d'après Philippe Dulieu, procureur de Liège, qui soupçonne une action terroriste. Le président français Emmanuel Macron a exprimé la solidarité et les condoléances des Français suite à cette attaque meurtrière.
L'armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 35 cibles sur 7 sites à Gaza en réaction aux tirs d'obus, de mortiers et de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne. La commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström a déclaré qu'il était peu probable que les États-Unis accordent à l'Union européenne d'ici au 1er juin une exemption permanente de leurs produits, de leurs droits de douane sur l'acier et l'aluminium, et elle dit s'attendre au mieux à des quotas de la part des États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé en mars des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium avant d'accorder des exemptions à certains alliés des États-Unis. Un demandeur d'asile iranien débouté a tenté de s'immoler par le feu dans les locaux d'une administration locale dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'homme de 35 ans souffre de brûlures graves et a été transporté par hélicoptère à l'hôpital. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manerekiza.
La Côte d'Ivoire considère désormais la noix de cajou comme un produit stratégique. Abidjan ambitionne de transformer la moitié de sa production d'ici à 5 ans pour accroître ses revenus et offrir de l'emploi à ses jeunes. La récolte de noix de cajou a doublé en 5 ans et représente 22% de la production mondiale. Première productrice mondiale, la Côte d'Ivoire est également leader mondial du cacao et enregistre 50% de ses recettes d'exportation. La Banque mondiale va débourser $1 milliard pour développer notamment l'agriculture, dont $200 millions pour appuyer des projets de transformation de la NARCADE, baptisé l'or gris. Le gouvernement va créer 4 zones industrielles destinées à la transformation à Bouaké, Korogo, Bondoukou et Séguéla. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et emploie 1,5 million de personnes, directement ou indirectement. Le Burkina Faso et le Togo ont lancé l'interconnexion de leur système informatique douanier. Ils veulent réduire le temps de transit sur le corridor Lomé-Ouagadougou et contribuer à rendre plus fluide le trafic entre les deux pays. 39% des marchandises importées au Burkina Faso transitent par ce corridor. Ce projet est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale pour environ $2 millions. L'Éthiopie envisage une extension de son réseau routier à 200 000 km d'ici à 2020. Le réseau actuel couvre 121 271 km. Addis Abeba a multiplié les investissements dans les infrastructures pour doper son économie par le commerce et les transports.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Première titularisation et premier but pour Weah.
Et oui, Timothy Weah, fils de George Weah, légende du foot et président du Liberia, a inscrit son premier but sous le maillot de l'équipe des États-Unis hier à Chester, en Pennsylvanie, en match amical contre la Bolivie. Timothy Weah, 18 ans, né à New York, a inscrit le troisième but de Team USA, qu'il a finalement remporté par 3-0. Les États-Unis, qui n'ont pas décroché leur qualification pour le Mondial 2018, ont encore 2 matchs amicaux à leur programme contre l'EIR le 2 juin à Dublin et contre la France une semaine plus tard à Lyon.
En basket, la finale NBA opposera Golden State à Cleveland.
Dominé jusqu'à la mi-temps, le champion en titre Golden State a renversé Houston sur son parquet la nuit dernière lors du match numéro 7 de la finale de conférence Ouest 101-92. Les Warriors se sont donc offerts une 4e finale NBA d'affilée face au Cleveland Cavaliers de LeBron James. Grand artisan du réveil de Golden State, Stephen Curry, peu en verve en début de match, a réussi un 3e carton exceptionnel et terminé le match avec 27 points. Pour la 4e année d'affilée, la finale NBA opposera donc à partir de jeudi Golden State à Cleveland, tombeur dimanche de Boston.
Premier tour de Roland-Garros, Nadal ne s'est pas amusé face à Bolelli.
Raphaël Nadal a franchi le premier tour en dominant le lucky loser italien Simone Bolelli, 6-4, 6-3, 7-6, mais a failli perdre un set à Paris pour la première fois depuis 3 ans. Avec cette 80e victoire dans la capitale française, l'ordre de la terre battue en est désormais à 29-7 remportés de suite sur sa surface fétiche. Nadal affrontera au prochain tour l'Argentin Guido Pella, 78e mondial, qui a dominé le Portugais João Sousa.
Toujours en tennis, retour gagnant pour Serena Williams.
L'ancienne numéro 1 mondiale a réussi son retour à Roland-Garros qu'elle avait manqué l'an passé pour cause de maternité en écartant la Tchèque Kristina Pliskova en 2-7, l'Américaine aux 23 trophées du Grand Chelem, dont 3 à Paris 2002, 2013 et 2015, disputait son premier match depuis un peu plus de 2 mois et sa défaite d'entrée à Miami.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour et on démarre par le Burkina Faso, où les syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement tiennent depuis hier, et ce jusqu'au 1er juin, des sittings sur leur lieu de travail. Ils réclament le respect par le gouvernement de ses engagements pris et protestent contre des mesures que le gouvernement envisage de prendre. Yacouba Ouédraogo a joint Adama Bahiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances.
Le mot d'ordre est tenu sur toute l'étendue du territoire national, en dépit de la répression qui est abattue sur les travailleurs qui sont en lutte.
Quel genre de répression?
Le gouvernement a déployé des éléments de la compagnie républicaine de sécurité et de la gendarmerie nationale dans toutes les directions et services du ministère de l'économie pour empêcher tout regroupement des travailleurs. Mais malgré cette présence policière, les camarades travailleurs ont pu quand même observer des sittings devant les directions ou dans les locaux des directions du ministère. Tous les travailleurs ont fait preuve d'une discipline quand même salutaire, ce qui a évité tout affrontement avec les forces de l'ordre.
Vous dites que le mouvement est suivi. On apprend que le syndicat des douaniers n'a pas observé le mot d'ordre de sit-in. Le mouvement ne se disperse-t-il pas?
Non, pas du tout. Il faut noter le caractère particulier du corps de la douane. C'est un corps paramilitaire et il y avait déjà des velléités de répression de la part du gouvernement. Donc, pour éviter des affrontements entre la police ou la gendarmerie et puis les camarades de la douane, il a été décidé que les camarades douaniers puissent ne pas faire le sit-in comme les autres travailleurs du ministère le font, mais le syndicat solidaire de la lutte.
Qu'est-ce que vous réclamez concrètement au gouvernement?
Les travailleurs du ministère réclament tout simplement que le gouvernement respecte ses engagements. Voilà. En plus, il y a des réformes que le gouvernement veut entreprendre au sein du ministère qui véritablement constituent un danger pour les carrières des travailleurs, mais également un danger même pour les finances publiques pour notre pays.
Quel engagement le gouvernement a pris et qu'il n'a pas respecté? Qu'est-ce que le gouvernement a promis et qu'il n'a pas donné?
Par exemple, il y a la question des cotisations syndicales qui est un engagement avec le gouvernement qui constitue à la retenue à la source et des cotisations syndicales et des cotisations pour les mutuelles dont le ministre des Finances a décidé de mettre terme unilatéralement. Ensuite, il y a la question du carburant, du fonctionnement pour les travailleurs. Et le ministre a pris un arrêté pour dire désormais qu'il n'y a plus de carburant pour les sorties sur le terrain. Ensuite, il y a la question également des motivations financières. On a demandé qu'il y ait des statuts sécurisants pour le personnel du ministère. Aujourd'hui, on nous tendons vers une privatisation des finances publiques. Il y a trois mesures fondamentales que le ministre veut faire passer. Un, c'est l'érection de la direction générale des impôts en établissement public d'État, qui est véritablement contraire véritablement au caractère de souveraineté d'État de l'impôt. Il y a la question, par exemple, des guichets banques qu'elle veut installer au sein des services des impôts. Et nous avons estimé qu'il y a des travailleurs qui sont là pour faire le travail. Ensuite, le gouvernement veut également donner le recouvrement des créances fiscales à des privés. Alors que nous sommes formés pour ça.
La semaine dernière, vous étiez en grève. Cette semaine, vous êtes en sit-in. Le sit-in a été déclaré illégal dans un avis rendu par le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute juridiction administrative du pays. Ne craignez-vous pas d'être sanctionné?
Là, aucun gouvernement ne va applaudir quand les travailleurs vont en lutte. C'est un avis que le Conseil d'État a donné. Pour nous, ce n'est pas une décision que le Conseil d'État a rendue. Ensuite, il y a la constitution du Burkina Faso qui quand même garantit la liberté de manifester.
C'était Adama Bahiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, le président Macky Sall a augmenté les bourses des étudiants et réduit les prix des repas dans les universités publiques du pays. C'est à la suite de la grève des étudiants déclenchée depuis la mort d'un des leurs au cours d'affrontements avec les gendarmes le 15 mai dernier. Les demi-bourses mensuelles passeront de 18 à 20 000 francs CFA et les bourses entières de 36 000 à 40 000. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'analyste Ibrahim Khan.
les étudiants avaient pratiquement posé des conditions qui créaient un blocage total dans la recherche d'une solution. Donc il fallait qu'il fasse montre d'une certaine générosité et il l'a cette fois-ci fait dans le cadre de l'augmentation des bourses. Et puis on est à un an des élections. Macky Sall veut se faire réélire et donc il a besoin de donner, ne serait-ce qu'à la communauté universitaire, des gages au moins d'un soutien ou autrement d'une position de neutralité dans les élections qui vont venir.
Est-ce que c'est amplement suffisant pour apaiser les esprits?
Pas tout à fait certain, parce qu'il y a maintenant une division entre les étudiants de l'Université de Saint-Louis qui n'ont même pas participé à la réunion d'hier au cours de laquelle le président a fait cette annonce et le reste des étudiants du Sénégal. N'oubliez pas que la crise est née à l'Université de Saint-Louis et que ces étudiants avaient vraiment des demandes très claires, très précises. Et deuxièmement, la crise de l'université n'est pas simplement une crise de bourse ou bien une crise alimentaire. C'est la place de l'université dans la société sénégalaise. Vous avez une université à Dakar qui fait 100 000 étudiants. 50 000 de ces étudiants font lettres. Le Sénégal n'a pas les moyens d'employer 50 000 professeurs. 90% seront des chômeurs. L'éducation ici au Sénégal est en crise depuis 1988, donc ça fait depuis 20 ans et aucun des gouvernements n'a pu trouver de solution. WADA avait généralisé les bourses. Et maintenant, on se trouve dans une situation où ces bourses sont insuffisantes et les étudiants en demandent plus.
Macky Sall pourra tenir le coup?
Je voulais juste sur ce point vous dire une chose qui est vraiment extraordinaire au Sénégal. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où, dès qu'on arrive à l'université, on a une bourse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La bourse, c'est toujours l'expression d'un encouragement à l'étudiant. C'est aussi le reflet du niveau du travail que l'étudiant a fait pour pouvoir continuer ses études. Mais donner une bourse à tout étudiant, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable parce que l'État ne peut pas tenir le coup. Plus on aura d'étudiants, plus les problèmes économiques vont se poser à ce même gouvernement. Et donc, il faudra vraiment crever l'abcès. Il y a un an, une structure avait été mise en place pour régler ce problème. Et une des propositions de cette structure, c'était justement de revoir toute la problématique des bourses au Sénégal. Malheureusement, on est encore dans la politique politicienne. On ne semble pas être pressé pour mettre en application ces recommandations.
C'était l'analyste politique Ibrahim Kan, joint à Dakar. Le Nigeria a célébré ce mardi la Journée nationale de la démocratie. Cela fait 3 ans que le président Muhammadu Buhari dirige le pays le plus peuplé d'Afrique après avoir battu aux urnes son prédécesseur Goodluck Jonathan. L'ancien général âgé de 75 ans avait bénéficié de la confiance des Nigérians pour sa détermination à lutter contre la corruption, mais surtout à mettre fin à la sanglante insurrection du groupe terroriste Boko Haram. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, revient sur les 3 ans de l'administration Buhari.
Il y a 3 ans, le Nigeria vivait la première alternance démocratique de son histoire. Le général Muhammadu Buhari gagnait la présidentielle, une victoire que son prédécesseur, Goodluck Jonathan, avait reconnue. 3 années plus tard, où en est le Nigeria et que pensent les Nigérians de l'administration de Buhari qui avait promis des performances? Judith Edward, activiste et assistante dans une ONG locale de développement.
Je ne dirais pas particulièrement que je suis satisfaite. Je sais que beaucoup reste à faire. Le genre de changement que nous voulons exige qu'on fournisse assez d'efforts parce que les dommages causés ne se sont pas produits en une seule année. Ça a pris plusieurs années pour que ces dommages se produisent. Donc, pour pouvoir réduire les débris de ces dommages, nous devons fournir plus d'efforts.
Les 2 principaux thèmes de la campagne électorale de 2014 et 2015 du président nigérian étaient la lutte contre la corruption et la mise hors d'état de nuire des groupes terroristes Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Des succès divers ont été enregistrés, certes, lors des 3 dernières années, mais pour l'heure, beaucoup reste à faire. Réaction d'Hidayat Hassan, directrice du Centre pour la démocratie et le développement.
On the fight against corruption, obviously there have been some impacts actually.
Sur la lutte contre la corruption, il y a eu vraiment quelques impacts, particulièrement des fonds détournés qui ont été recouvrés. mais aussi cette lutte contre la corruption est vivement critiquée par beaucoup de personnes, surtout avec la perception que la lutte est sélective.
En l'absence d'une réforme profonde du système judiciaire, la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers, ISCC, a bien traqué quelques pilleurs des précédents régimes, mais elle s'est le plus souvent bornée à faire rembourser une partie des sommes détournées. Très peu de peines de prison ont été prononcées et encore moins ont été appliquées. La jeunesse de ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest manque de boulot. Une jeunesse qui veut désormais prendre les rênes du pouvoir. Hamza Laval est activiste et un des combattants pour l'inclusion des jeunes dans la gestion des affaires de l'État nigérien.
Je pense que son échec est de ne pas impliquer beaucoup de jeunes dans son cabinet. Aujourd'hui, si vous regardez des gens autour du président Muhammadu Buhari, que ce soit dans l'exécutif et ceux qu'il a nommés au sein du conseil d'administration et d'autres chefs des agences de l'État, vous n'avez pas de jeunes. Vous trouvez des vieux et bien sûr, vous savez que les vieux rêvent seulement et si vous rêvez, vous devez dormir pour pouvoir rêver. Donc ça dort, ça rêve à la fois, mais les jeunes, eux, ont une vision.
Concernant la lutte contre Boko Haram, le bilan de Muhammadu Buhari est a priori plus positif. Le groupe ne contrôle plus de territoire. Cependant, force est de constater que les attentats n'ont pas cessé, ni les kidnappings, comme celui d'une centaine de lycéennes en février dernier à Dapchi, dans l'état de Yobe. Quatre ans après celui de Chibok, lors duquel 276 filles avaient été faites prisonnières. Témoignage.
Je peux dire qu'il travaille bien parce que notre travail, c'est de prier pour lui et pour la nation pour qu'il puisse continuer à faire plus et que Dieu le garde en
vie.
En ce qui concerne cette administration, ils ont pu affronter la question de l'insécurité, même s'ils ont encore beaucoup de travail à faire, contrairement à l'administration précédente.
Malgré ces bilans plutôt en demi-teinte, auxquels on pourrait ajouter la crise entre éleveurs et agriculteurs, Muhammadu Buhari va se présenter à la présidentielle de 2019. Selon un sondage du Centre pour la démocratie et le développement, 40% de la population apprécie le travail de Buhari et 60% des Nigériens ne sont pas satisfaits du régime du président nigérien. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Et on termine par le Cameroun, justement, où le gouvernement a tenu à faire connaître son point de vue sur ce qui s'est passé à Menka, zone anglophone, vendredi dernier. Il s'agit pour le porte-parole du gouvernement camerounais d'apporter des précisions sur ces accusations qui pèsent sur l'armée camerounaise qui aurait sommairement exécuté une vingtaine de personnes dans la localité de Menka, dans la région du Nord-Ouest. Retour sur cette conférence de presse de Issa Tiroma Bakary, par ailleurs ministre de la Communication, avec Denis Kouebo, journaliste joint à Douala par John Lyndon.
La communication du ministre de la Communication était très attendue, notamment avec des vidéos de mauvais goût qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux en rapport avec des massacres imputés aux militaires camerounais. Et il faut dire déjà en tant que journaliste que la version des faits rapportée par le ministre de la Communication rejoint en réalité d'autres versions concordantes émanant de journalistes anglophones qui sont allés sur le terrain. Cela n'exclut pas qu'il y ait eu des erreurs de la part des militaires camerounais lors de cette intervention, mais de toutes les façons, tout est clair. Il est maintenant clair que ceux qui ont été attaqués à Menka étaient effectivement des éléments appartenant aux bandes des armées qui écument la région du Nord-Ouest.
Justement, le gouvernement parle de la présence des bandes armées dans certaines localités, notamment Menka que vous avez cité. Comment expliquer cette présence?
Menka fait partie de l'épicentre de la crise dite anglophone côté Nord-Ouest. Menka, c'est dans Pénin, notamment le ministre a parlé de Pénin également. Donc, c'est une zone qui était ces derniers temps infestée d'éléments armés incontrôlés. Et les attaques répétées contre les militaires, contre des policiers et les gendarmes renseignaient sur le caractère dangereux de cette zone de Wabane, d'où les influences seraient probablement venues. Mais ces derniers temps, c'était devenu en réalité une zone hautement dangereuse où les véhicules ne circulaient pas, les activités roulaient au ralenti et il y avait des actes de prise d'otages avec réclamation de rançon. Et depuis quelques jours, on on a l'impression que ça s'est calmé.
Alors, du point de vue de la résolution de ce qui est aujourd'hui la crise anglophone, où en est-on avec les négociations, si négociations il y a, et que sont devenus les leaders sécessionnistes arrêtés par le gouvernement?
De toute façon, du point de vue du gouvernement, on peut négocier avec tout le monde, sauf avec ceux qui se sont réclamés du leadership du mouvement identitaire anglophone. Donc,
voilà, c'était Denis Kouebo, journaliste camerounais à Douala. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Georges Léonard Stagnaud et à Wagner Robert. Présentation, Abdourahmane Diakhou.